Bonjour, c'est Aurélie Herbemont, ravie de vous présenter ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL. Un épisode consacré à Emmanuel Macron et à sa garde rapprochée. Avec cette question centrale, le président est-il isolé? D'après son épouse, absolument pas.
Non, il n'est pas isolé, du tout. C'est clair que l'Élysée, c'est un lieu un petit peu à part, mais il y a des manières de vivre à l'Élysée. Et l'un comme l'autre, nous ne vivons pas de manière isolée.
Alors, pour voir s'il faut croire la première dame sur parole ou pas, je suis avec William Galibert, journaliste politique qui suit l'exécutif à RTL. Bonjour William.
Bonjour Aurélie.
Et nous sommes aussi avec Arthur Berda, chef adjoint du service politique au Figaro et auteur du livre Emmanuel Macron, Vérités et Légendes. Bonjour Arthur, merci d'avoir accepté cette invitation.
Bonjour Aurélie, bonjour William, bonjour à tous.
Alors, on va faire un petit tour d'horizon de l'entourage d'Emmanuel Macron, entourage qui a un peu évolué depuis son arrivée à l'Élysée en 2017. Avec qui gouverne-t-il? Qui écoute-t-il quand il s'agit de prendre des décisions? On va commencer par la personne clé du dispositif macroniste. Il est là depuis 2017 et même avant auprès d'Emmanuel Macron. C'est le puissant secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler. Il est peu connu du grand public, on le voit et on l'entend quasi exclusivement quand il s'agit d'annoncer la composition des gouvernements.
Sur la proposition de la Première ministre, le président de la République a nommé Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur.
William, c'est la vraie tour de contrôle dans le dispositif macroniste?
Oui, on peut le dire. Il y a, je pense, des surnoms qui peuvent dire beaucoup d'un homme. Et Alexis Kohler, il a beaucoup de surnoms. Et parmi ces surnoms, on l'appelle le deuxième cerveau d'Emmanuel Macron. On l'appelle le vice-président, on l'appelle aussi l'inconnu le plus puissant de France. Donc ça vous pose une personnalité et ça vous pose aussi son importance au sein du dispositif autour d'Emmanuel Macron, ce qui était déjà d'ailleurs le cas du temps de Bercy, puisque les deux hommes sont absolument inséparables depuis des années.
Bercy, ouais, depuis 2015.
C'est l'alter ego. Tout passe par lui et il fait un petit peu la pluie et le beau temps, ce qui peut d'ailleurs parfois agacer et effrayer. Mais oui, il est au centre du jeu et il est totalement indissociable d'Emmanuel Macron à l'Élysée et dans le travail, dans la prise de décision.
Et Arthur, il n'a pas toujours bonne presse auprès des macronistes. Il est considéré comme trop puissant ou d'autres le trouvent indispensable.
Alors non, vous avez raison, il a pas tellement bonne presse auprès des macronistes, en tout cas auprès d'une partie des macronistes qui sont ce qu'on appelle communément le camp des politiques, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas les technos. Mais je voudrais ajouter deux choses à ce que disait William Galibert à l'instant. Il dit qu'il y a des surnoms qui disent beaucoup d'un homme, c'est vrai, il y a aussi des images qui disent beaucoup. Et lorsqu'on parle d'Alexis Kohler avec certains macronistes, on nous explique que lorsqu'Emmanuel Macron coupe les oignons, c'est Alexis Kohler qui pleure. Donc voilà, l'image elle aussi, elle est assez parlante, assez révélatrice. Et puis il y a une autre donnée qui montre l'importance d'Alexis Kohler. Il fait partie des deux personnalités qui ont traversé ces 6 ans élyséens au même poste. Il y a Patrick Strauda, le directeur de cabinet, assez peu connu lui aussi. Et puis Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée. Voilà.
Il va rester pendant les deux quinquennats entiers, William ?
Ça peut. En tout cas, il y a c'est aussi des démêlés judiciaires autour d'Alexis Kohler, une mise en examen. Notamment dans ce qu'on a appelé l'affaire MSC. Mais même cette mise en examen n'a pas dissuader Emmanuel Macron de se séparer de son principal collaborateur. Donc, a priori, tout est fait pour que ce duo puisse continuer jusqu'en 2027, jusqu'à la fin du deuxième quinquennat. Et vous le disiez, on en parle, beaucoup de critiques autour de son action, de sa manière de penser de la part de certains macronistes plus politiques. On lui reproche, lui, Alexis Kohler,
d'être le chef des technos.
Voilà, d'avoir une vision un peu froide, celle d'un haut fonctionnaire, plus penché sur ses chiffres et ses colonnes Excel que sur la réalité des Français. Et on lui prête aussi beaucoup d'influence au moment de la rédaction des programmes. On dit que c'est lui qui a poussé pour la retraite à 65 ans dans le programme l'an passé. On dit qu'il était prêt à maintenir la taxe carbone malgré les protestations des gilets jaunes. Lors du premier quinquennat. Donc voilà, on lui prête parfois une vision, on va dire, plus chiffrée et plus économique qu'humaine et politique. Et ça crée parfois quelques problèmes au sein de la Macronie.
Et Arthur, en fait, Emmanuel Macron, on a l'impression qu'il ne peut pas se passer de lui.
Non, vous avez raison, il ne peut pas se passer de lui. Alexis Kohler fait partie des premiers arrivés le matin et il est le dernier à quitter l'Élysée le soir. Emmanuel Macron passe dans son bureau sans frapper à la porte. Les deux hommes discutent quasiment toute la journée en permanence. Ils sont en contact continu. William rappelait qu'Alexis Kohler a mis son imprimature sur le programme d'Emmanuel Macron pour la présidentielle de 2022, à tel point qu'on va parler d'un programme copier-Kohler. Donc, avec les compliments et puis les critiques que cette formule implique. Donc, il est indispensable pour Emmanuel Macron. On l'a annoncé 1000 fois parti et puis il est 1001 fois resté.
Alors, Alexis Kohler, on l'a bien compris, c'est la figure essentielle du dispositif, mais il y a eu du changement autour du chef de l'État depuis sa réélection en avril 2022, car les élections législatives ne se sont pas du tout passées comme le président l'espérait. Il a perdu la majorité absolue et parmi les candidats des faits, un certain Richard Ferrand.
Je viens de prendre acte des résultats indiquant que les électrices et les électeurs de la 6e circonscription du Finistère ont choisi d'élire députée ma concurrente.
Alors Richard Ferrand, c'était le macroniste de la première heure et président de l'Assemblée nationale. Il a été battu dans son fief du Finistère. Ça a laissé un vide dans le dispositif politique autour du président, William ?
En tout cas, au départ, au moment des élections législatives l'an passé, c'est vrai que Richard Ferrand, le soir de la défaite, il tombe de très très haut. Il y a eu quelques mois de flottement, où il fallait que Richard Ferrand retrouve un rôle qu'il avait perdu, il n'était plus au perchoir, il n'avait plus la légitimité des élections, et il y a eu une petite période, on va dire, de déprime, hein, les mois qui ont suivi tout ça. Richard Ferrand, on dit qu'il revient de plus en plus, qu'il est un des visiteurs du soir régulier d'Emmanuel Macron, et cette proximité, le fait qu'il ait fait partie de l'aventure parmi les premiers, va lui permettre de peut-être avoir une franchise supérieure ou une liberté de parole auprès du président que d'autres n'auront pas. C'est en ce sens que Richard Ferrand était très important aussi pendant tout le premier quinquennat et qu'il tente en ce moment de retrouver cette importance auprès du président.
Arthur, Richard Ferrand, il fait partie de ceux qui peuvent dire au président « Bon, là, ça déconne, il faut changer quelque chose ».
Oui, il parle franchement au président, il se parle régulièrement. Il y a eu en effet cette petite déprime. Il y a une image qui est plus symbolique qu'autre chose, mais les élections législatives, le second tour a eu lieu le 19 juin 2022. Le 21 juin, c'est la fête de la musique traditionnelle à Lille. Il n'y avait qu'un seul invité aux côtés d'Emmanuel Macron, c'était Richard Ferrand. Ah ouais. Seule personnalité à être aux côtés d'Emmanuel Macron, à danser dans le carré présidentiel avec le chef de l'État. Donc il y a une vraie relation de confiance et de proximité entre les deux hommes. Il n'est plus là au quotidien pour mettre du lien avec les députés, ce qui n'aurait pas été malvenu en temps de majorité relative. Pour autant, Richard Ferrand, aujourd'hui, il reste en contact avec Emmanuel Macron et il est de chaque réunion politique ou stratégique que convoque le chef de l'État à l'Élysée, il ne faut pas se tromper là-dessus. Et l'un des éléments qui nourrit justement la confiance qu'Emmanuel Macron peut avoir en lui, c'est que Richard Ferrand, depuis sa défaite, il a cette jolie formule qui est de dire qu'il a été licencié par les électeurs, mais il s'astreint au silence. Richard Ferrand, vous ne le trouvez pas dans les médias, pour dire du bien, ni pour dire du mal, ni pour révéler le contenu de ses discussions avec Emmanuel Macron depuis sa défaite. Il estime avoir été licencié par les électeurs, et donc il estime ne plus avoir de légitimité à prendre publiquement la parole, du moins pour l'instant. Et il ne le fait pas. Et c'est ce qui fait un petit peu sa singularité aussi aux yeux d'Emmanuel Macron et ce qui nourrit la confiance que le président voue dans l'ancien président de l'Assemblée nationale, à qui, rappelons-le, il avait proposé d'être son conseiller au lendemain des législatives, ce à quoi Richard Ferrand avait répondu « Ça fait déjà 5 ans que je te donne des conseils gratuitement sans que tu les écoutes, il n'est pas question que tu me payes pour que je continue à faire cela. »
Alors, il y a eu une autre personnalité qui a été licenciée par les électeurs, c'est Christophe Castaner, ancien ministre de l'Intérieur, ancien patron des marcheurs à l'Assemblée. Il a lui aussi perdu en 2022. Il était précieux dans le dispositif, William ?
Il l'était comme lieutenant, comme porte-flingue. Il l'avait été dès la campagne de 2017 et il a continué à le faire. Ça va être... Là, c'est une histoire un peu différente qui s'écrit en ce moment, différente de celle qu'il peut y avoir entre Richard Ferrand et Emmanuel Macron. Il y a une forme de distance qui s'est installée aujourd'hui entre Christophe Castaner et Emmanuel Macron, même ne serait-ce qu'une distance géographique, puisque Castaner a recentré la plupart de ses activités dans le sud-est, chez lui. Et c'est vrai que lui n'a pas forcément, aujourd'hui, retrouvé une place forte ou dans le dispositif actuel autour d'Emmanuel Macron.
Christophe Castaner, il joue plutôt un rôle différent. En effet, il a un rôle aujourd'hui très différent de celui de Richard Ferrand. il s'est replié dans le sud-est et il a été pour cela aussi un petit peu aidé par Emmanuel Macron. Christophe Castaner, aujourd'hui, il est à la tête du tunnel du Mont-Blanc, mais pas seulement, il est aussi à la tête du Grand Port de Marseille. Et ça, c'est un élément important, puisqu'aujourd'hui, Christophe Castaner, souvenez-vous, il avait été pressenti pour prendre la tête de liste au municipal de 2020 à Marseille. Finalement, il ne l'avait pas fait. Et Marseille, on sait que c'est une ville chère à Emmanuel Macron, sa ville de cœur, dit-il souvent. C'est une ville dont il veut faire la capitale de la Méditerranée sur 15 ans. C'est la ville pour laquelle il a lancé le plan Marseille en grand. Et donc, Emmanuel Macron, il n'a aucun élu dans sa ville de cœur, Marseille, mais il y tisse sa toile. Et donc, Christophe Castaner est l'un des éléments de cette toile que le président essaie de tisser à Marseille.
Oui, Emmanuel Macron a des envoyés spéciaux, dirons-nous, à Marseille. Alors, deux femmes ont remplacé Christophe Castaner et Richard Ferrand. Donc, c'est Aurore Berger qui est maintenant à la tête du groupe Renaissance et Yael Braun-Pivet-Perchoir. Avec elle, le président n'a pas du tout la même relation qu'il pouvait avoir avec ces deux grognards, alors, comme on peut les appeler.
Avec Richard Ferrand, le président pouvait se poser dans un fauteuil de cuir avec un whisky et un cigare pour refaire le monde. Bah, avec Yael Braun-Pivet, c'est pas la même, hein, pour résumer les choses. Donc, c'est pas du, ils n'ont pas du tout la même histoire, ils n'ont pas du tout les mêmes affinités. Et à vrai dire, ce n'est pas Yael Braun-Pivet qu'Emmanuel Macron
voyait
à la tête de l'Assemblée nationale. Lui, l'imaginait plutôt Roland Lescure
qui est aujourd'hui ministre de l'Industrie.
Et c'est le scrutin interne aux députés de la majorité qui a tranché et qui a porté Yael Braun-Pivet. Donc, effectivement, pas les mêmes rapports. Et ça s'est tellement ressenti sur l'année qui vient d'être écoulée, dans la façon dont les textes ont pu être gérés entre le gouvernement et l'Assemblée et dont les difficultés ont pu s'accumuler autour du travail parlementaire.
Est-ce que ces deux femmes, Yael Braun-Pivet et Aurore Berger, elles ont un poids dans la décision politique d'Emmanuel Macron aujourd'hui ?
Oh, il est nettement inférieur, en tout cas si on reste dans la comparaison avec Christophe Castaner et Richard Ferrand, il est nettement inférieur. À l'époque, si vous voulez, malgré tout ce qu'on peut entendre en droit constitutionnel sur la séparation des pouvoirs, avec le pouvoir exécutif qui est à l'Élysée à Matignon et le pouvoir législatif qui est au Parlement, durant le premier quinquennat, quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise, Richard Ferrand à la présidence de l'Assemblée et Christophe Castaner à la tête du groupe majoritaire, ils étaient en réalité les relais législatifs du pouvoir exécutif. Et ils en étaient le bras armé et le prolongement. Aujourd'hui, ce qu'il se passe, c'est que l'Assemblée nationale n'est plus le prolongement de l'Élysée. Elle est une maison parallèle, à côté. Elle est un autre pouvoir. Elle n'est pas un contre-pouvoir, loin s'en faut, mais elle est un autre pouvoir. Et donc, Yael Braun-Pivet, première femme présidente de l'Assemblée nationale de l'histoire de la 5e, soulignons-le. Aurore Berger, première femme patronne d'un groupe majoritaire de l'histoire de la 5e, soulignons-le aussi, elles ne sont pas les relais directs de l'Élysée. Elles ne sont pas non plus pour autant des opposantes, hein, soyons clairs.
Non.
Mais la relation n'est plus la même et elles ont une existence propre pour toutes les raisons que William m'a exposées, c'est qu'elles sont arrivées à ces postes-là par elles-mêmes. Et donc elles font entendre leur musique, leur voix, leur style aussi, qui n'est pas toujours celui d'Emmanuel Macron.
Et William, puis il y a une chose aussi qui est frappante, mais que vous allez constater en nous écoutant, c'est que Emmanuel Macron, il est quand même entouré d'hommes, quasiment exclusivement. La seule femme et pièce maîtresse du dispositif autour de lui, c'est Brigitte Macron. Ça peut jouer aussi. Je ne pourrais pas vous l'expliquer fondamentalement pourquoi il a choisi de ne s'entourer que d'hommes, mais c'est assez factuel.
Et là, les femmes lui ont été un peu imposées, en fait.
Voilà, surtout que celles-là, il ne les avait pas choisies, mais c'est vrai que dans les dîners stratégiques autour du président, maintenant, il y a Aurore Berger et Yael Braun-Pivet qui parfois ont fait leur apparition, mais ça reste quand même un club très masculin.
On va continuer à parler d'autres hommes qui sont autour du président, parce qu'il y a eu un autre changement, c'est au niveau de la com de l'Élysée. Clément Leonarduzzi a quitté le palais sitôt sa mission accomplie, qui était donc de faire réélire Emmanuel Macron. Son successeur, Frédéric Michel, il est très différent, Arthur.
Ah oui, les styles n'ont rien à voir. Et d'ailleurs, c'est assez assumé par l'un comme l'autre des deux hommes. Clément Leonarduzzi, c'était un vrai communicant. C'est-à-dire qu'il n'est pas un militant politique. Il n'a pas l'intention de le devenir. D'ailleurs, dès la réélection assurée, il s'en est allé vers d'autres aventures. Il est aujourd'hui numéro 2 de Publicis France, pour ne pas citer l'entreprise. Il est venu pour une mission, Clément Leonarduzzi, et non pour une ambition. Frédéric Michel, il n'a pas non plus d'ambition politique, mais son style est très différent. Clément Leonarduzzi, c'est c'était jusqu'à 800 messages par jour. Il a compté un jour pour vous dire. Clément Leonarduzzi, il tutoyait le président et il n'hésitait pas à le faire, y compris devant les caméras. Clément Leonarduzzi, il appliquait la règle de François Hollande. C'est l'une des seules fois où François Hollande a été écouté en Macronie. C'est qu'il ne laissait jamais un journaliste sans réponse. Frédéric Michel, il a un style un petit peu différent. Je ne sais pas si on peut le résumer ainsi, mais je dirais que Clément Leonarduzzi s'était fixé pour principal objectif de parler aux journalistes. Frédéric Michel, il cherche aussi, je ne dirais pas qu'il ne fait que ça, mais il cherche aussi à parler au président. Et c'est peut-être ce qui les distingue le plus. Mmh. Sans compter que Frédéric Michel a une histoire outre-Atlantique, outre-Manche aussi. Il a été conseiller de Rupert Murdoch et d'autres, de Tony Blair notamment. Il importe cette histoire diplomatique au président, qui comptait faire de ce quinquennat un quinquennat de legacy, avait dit Frédéric Michel, c'est-à-dire préparer son histoire, son héritage, la trace qu'il laisserait, exactement. Si l'on en croit ce que le président dit ce matin face aux lecteurs du Parisien aujourd'hui en France, il semblerait que le président soit revenu de cette volonté de se concentrer sur les affaires diplomatiques, sur les affaires étrangères, et qu'il entend se réimpliquer dans les affaires domestiques, les affaires intérieures.
En tout cas, William, il y a des nostalgies de l'époque Leonarduzzi, il a totalement disparu du paysage. Moi, je sais qu'il y a des députés, notamment, qui lui demandent encore des conseils. Est-ce qu'Emmanuel Macron aussi se tourne encore parfois vers lui ?
Il n'a pas du tout disparu du paysage, soyons francs. Et il est juste payé par un employeur privé, mais on a l'impression qu'il fait le même travail, parfois. Non, il est encore sollicité...
Peut-être pas avec 800 messages par jour.
Encore sollicité parfois par les journalistes, parce que il y a certaines réponses qui n'arrivent pas toujours de l'Élysée et qu'on cherche à multiplier certaines sources. Mais il est aussi... sollicité encore par le président, parce que leurs relations ne se sont pas arrêtées du jour au lendemain après la réélection d'Emmanuel Macron. Et on dit par exemple que sur la dernière allocution d'Emmanuel Macron il y a 8 jours, eh bien, il a pu parfois donner quelques conseils, mettre sa patte. C'est aussi le cas de l'ancienne plume de l'Élysée, Jonathan Guémas, qui a suivi Clément Leonarduzzi dans le privé chez Publicis, mais qui continue, voilà, on va dire, à donner quelques coups de main quand on les sollicite, et peut-être parfois quand on ne les sollicite pas non plus.
Ce qu'on constate depuis qu'Emmanuel Macron est à l'Élysée, donc depuis sa première élection, c'est que les ministres de droite ont pris un poids considérable. Arthur, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que des gens comme Gérald Darmanin ou Sébastien Lecornu dans le gouvernement sont ceux dont le président est le plus proche ?
Oui, clairement. Vous savez, il y a ce Emmanuel Macron, il vient de la gauche. Pour autant, depuis son apparition sur le premier plan de la scène politique nationale, et à plus forte raison depuis son élection, il y a un mythe autour d'Emmanuel Macron, c'est l'aile gauche. L'aile gauche de la majorité. Alors, si vous tapez sur Google aile gauche majorité ou aile gauche Macronie, vous verrez, je pense qu'il y a un nombre d'occurrences qui frôlent l'infini. Pour autant, cette aile gauche, elle n'a jamais véritablement existé, elle n'a jamais véritablement pesé. Et pour une raison simple, c'est que vous venez de les citer, il y a des ministres venus de la droite qui sont très forts, qui sont très puissants et qui ont accaparé l'héritage macroniste. Ces ministres-là, il suffit de regarder l'ordre protocolaire du gouvernement. Elisabeth Borne est Premier ministre, mais qui sont les deux suivants ?
Bruno Le Maire
numéro
Darmanin.
2 à la tête d'un grand Bercy, Gérald Darmanin numéro 3 à la tête de Beauvau. Bercy et Beauvau, ce sont les deux ministères qui font et qui défont des carrières politiques. Nicolas Sarkozy peut vous en dire quelque chose. Et donc aujourd'hui, oui, ces personnalités venues des rangs de la droite sont celles qui sont les plus proches pour Emmanuel Macron, dans la mesure où ce sont celles qui lui rapportent le plus en réalité. Le socle électoral d'Emmanuel Macron dès l'élection de 2017 passée, il s'est déplacé vers la droite. L'effondrement de LR y est pour quelque chose aussi, mais ces personnalités-là ont pour mission de faire en sorte qu'il reste dans le giron macroniste. Ce socle électoral-là qui n'aille ni chez Marine Le Pen, ni chez Éric Zemmour, ni chez celui ou celle qui sera le ou la candidate des Républicains un jour, si tant est que le parti parvienne à faire émerger une personnalité. Leurs noms sont de fait ceux qui reviennent le plus lorsqu'il est question de Matignon. Elisabeth Borne est aujourd'hui à Matignon. Emmanuel Macron, lors de son allocution, s'est donné 100 jours, donc jusqu'au 14 juillet. Beaucoup ont compris que le 14 juillet serait la date de péremption politique d'Elisabeth Borne, que ce serait la date de fin de son bail à Matignon. Et dès cet instant-là, certains se sont positionnés, parmi eux, Gérald Darmanin, Sébastien Lecornu sont des noms qui reviennent très souvent. Quant à Bruno Le Maire, il a coutume de dire qu'après avoir brigué la présidence de la République, il a été candidat à la primaire de la droite en 2016, on ne peut pas briguer Matignon, même si lorsqu'il dit cela, personne ne le croit.
Et puis, autant on va dire que les relations plus personnelles entre Emmanuel Macron et Bruno Le Maire vont être de nature cordiale, mais il y a aussi une vraie rencontre entre Gérald Darmanin et Emmanuel Macron. Ils se sont un peu trouvés. Ils sont de la même génération. Ils partagent des références communes qui souvent ramènent plutôt aux années 50, 60, 70, les répliques de Lautner, les tontons flingueurs et la chanson française. Ben, il y a eu aussi comme ça, on va dire, ça a matché un petit peu humainement entre Emmanuel Macron et Gérald Darmanin, et ça a aussi expliqué la place prise dans le dispositif par Gérald Darmanin.
Ils sont plus importants que des Gabriel Attal ou des Clément Beaune, des ministres venus de la gauche, Arthur.
Ils n'ont pas le même rôle en fait. Gabriel Attal, il est devenu un porte-flingue. C'est-à-dire que Gabriel Attal, c'est la sécurité, ceinture et bretelles. Vous pouvez l'envoyer sur un plateau. Vous savez que la parole macroniste va être déployée comme elle doit l'être, qu'il n'y aura pas de faux pas, pas d'erreur, que les choses vont être assez carrées. Gérald Darmanin, il a un autre rôle pour Emmanuel Macron, c'est qu'il parle à une France qu'Emmanuel Macron ne touche pas forcément. Emmanuel Macron, il a souvent été décrit par ses détracteurs comme un président parisien, un président des villes, un président métropolitain, un président des riches. Gérald Darmanin, c'est un élu de Tourcoing, petite commune du Nord. C'est celui qui, souvenez-vous, disait vouloir manger avec les doigts et boire de la bière, voilà, pour parler à cette France-là. Et donc, Gérald Darmanin, il a cette carte qu'Emmanuel Macron n'a pas forcément. Il peut lui apporter quelque chose. Et en cela, il est très précieux. J'ajoute qu'il y a aussi une rencontre avec Sébastien Lecornu, qui est devenu un petit peu plus discret ces derniers
depuis
temps,
qu'il depuis qu'il est ministre des Armées.
Exactement, depuis qu'il est à la tête de la Grande Muette, il applique très bien ce surnom, il se l'applique très bien à lui-même aussi, mais Sébastien Lecornu, il ne faut pas oublier que c'est l'homme du grand débat, c'est l'homme qui a passé des heures en réalité avec Emmanuel Macron, les deux hommes se sont bien trouvés. Sébastien Lecornu, il était à la tête d'une association qui n'a pas été sur le devant de la scène, mais qui a quand même existé, qui est l'association pour la réélection d'Emmanuel Macron. C'est à lui que le président a décidé d'en confier la tête. Donc, il y a eu une rencontre entre ces différentes personnalités-là, là où les relations avec Bruno Le Maire sont en effet plus cordiales, je dirais même parfois un peu plus froide.
Alors, Arthur, vous parliez tout à l'heure de Nicolas Sarkozy. On sait qu'il voit régulièrement Emmanuel Macron. Est-ce que le président actuel écoute toujours les conseils de l'ancien ?
Alors, si vous posez la question à l'ancien, il vous dira que non, pas suffisamment. parce que Nicolas Sarkozy, il a fait savoir ces derniers temps qu'il n'approuvait pas tout de la gestion du dossier des retraites par Emmanuel Macron. Nicolas Sarkozy, il distribue beaucoup de conseils à Emmanuel Macron, c'est vrai. Il a longtemps trouvé que le président était plutôt meilleur ou plutôt moins mauvais que les autres prétendants ou les autres figures de la droite, puisque c'est cela qui intéresse Nicolas Sarkozy en réalité. Et donc, il a toujours été plutôt en soutien jusqu'ici. Là, il a pris quelques distances ces derniers temps en expliquant que le président gérait assez mal ou pas très bien les choses. Et donc, il estime, évidemment, ne pas être suffisamment écouté, tandis que le président actuel, lui, dès l'instant où revendiquer sa proximité avec Nicolas Sarkozy peut agacer François Hollande, il n'hésite pas à le faire savoir.
Et William, quelle est la place des alliés d'Emmanuel Macron, François Bayrou, le patron du Modem, et puis je vais citer volontairement un autre président de parti, Édouard Philippe, qui est aussi ancien Premier ministre Horizon. Est-ce que eux, ils ont de l'influence auprès d'Emmanuel Macron ou pas du tout ?
Oui, mais de manière différente. D'abord, Emmanuel Macron a peut-être un grand mérite, c'est que depuis 6 ans maintenant, au moins une ou deux fois par semaine, il a une heure au téléphone, François Bayrou. il écoute patiemment les conseils et les leçons de l'allié François Bayrou, sans forcément là aussi les appliquer, mais en tout cas, il y a eu chez Emmanuel Macron cette constance pour bien traiter son allié du Modem qui lui a sûrement permis à un moment d'aller très haut et peut-être de se faire élire en 2017.
Oui, rappelons que François Bayrou à la base voulait être candidat et finalement à la mi-février il renonce et fait une alliance comme il dit avec Emmanuel Macron.
Et ça fait 6 ans qu'il lui rappelle
qu'il est là,
qu'il est là et tout ce qu'il lui doit. Voilà, donc il y a ce rapport là. C'est vrai que et puis François Bayrou ces derniers mois s'est plutôt fait entendre un peu comme un poil à gratter, notamment sur la réforme des retraites, en répétant qu'il ne fallait pas y aller aussi fort, pas y aller aussi vite, et qu'il fallait bien prendre le temps de la discussion. Donc dès qu'il y a un désaccord, généralement on le sait, et ça permet aussi à François Bayrou de rappeler qu'il a encore du poids et de l'influence sur tout le dispositif politique. Vous parliez aussi d'Edouard Philippe. Là, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour l'énerver, comment est-ce qu'on peut faire pour le faire vriller, si je puis dire. On en est arrivé à une détestation. Je pense pas que le mot soit trop fort entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe. Et c'est une rivalité, une détestation qui se fait aussi au travers de leurs familles respectives, de leurs partis respectifs. Les sorties d'Édouard Philippe agacent prodigieusement à chaque fois qu'il décide d'en faire. Et aujourd'hui, les rapports sont plus que tendus. Oui, Édouard Philippe, quelle était sa formule pour dire voilà, on a des rapports cordiaux mais distants. La réalité, c'est qu'il n'y a quasiment aucun rapport et énormément d'animosité entre les deux hommes aujourd'hui.
Arthur, un mot aussi sur la relation entre Édouard Philippe et Emmanuel Macron.
Il y a eu cette phrase d'Édouard Philippe, hein, souvenez-vous, Horizon aura un candidat et je vois assez bien qu'il n'y aura pas de primaire. Donc, Édouard Philippe, il prépare très clairement le chemin pour 2027. Il le fait dans son couloir à lui, qui est un couloir qu'il veut en tout cas indépendant de celui de la majorité. Emmanuel Macron, souvenez-vous, lorsque Édouard Philippe quitte Matignon, en tout cas lorsqu'il est remercié, Emmanuel Macron lui propose d'animer la majorité. Philippe lui fait savoir qu'il n'en est pas question. Et on comprend bien aujourd'hui pourquoi. C'est-à-dire que dans cette majorité relative, qui est celle dont Emmanuel Macron dispose à l'Assemblée, la trentaine de députés Horizon, elle a un poids très important dans cette majorité. Et donc, elle n'hésite pas à faire entendre sa voix sur la question des retraites. Aussi paradoxal cela puisse paraître, quand on sait qu'Édouard Philippe
et
a
évoqué
jusqu'à 67 ans, mais il y a eu certains frondeurs chez Horizon et Édouard Philippe, soit n'a pas su, soit n'a pas voulu les faire rentrer dans le rang. Parce qu'Édouard Philippe, il joue aussi sa partition, il joue sa propre musique, et il sait bien que le dépassement des clivages porté par Emmanuel Macron ne survivra pas forcément à Emmanuel Macron, et qu'en 2027, il faudra proposer une offre qui se situera en opposition au Rassemblement National et en opposition à la NUP, si tant est que la NUP résiste jusque-là, et Édouard Philippe le voit franchement ancré au centre droit. Édouard Philippe, lorsqu'il est nommé à Matignon, il dit « je suis un homme de droite ». Il le rappelle. Il le rappelle lorsqu'il entre à Matignon, il le rappelle lorsqu'il quitte Matignon. Il n'a jamais dévié là-dessus. Et donc, il entend reconstruire une force de droite, de centre droit, de droite républicaine. Et ça n'est pas exactement le dépassement des clivages voulu par Emmanuel Macron. Donc, alors, les relations sont très compliquées entre eux. Oui.
Au début de cet épisode, on entendait Brigitte Macron assurer que son mari n'était pas isolé. Maintenant qu'on a fait un petit peu le tour de la galaxie Macron, William, qu'est-ce qu'on dit ? Il est isolé ou pas, le président ?
Il y a une forme d'isolement qui, de toute façon, est inhérente à sa fonction. Mais lui a toujours fonctionné de cette manière, avec des clans, avec des gens qui reviennent. Et d'ailleurs, dont il ne peut pas se passer. Et quand certains s'éloignent un moment, eh bien, c'est pour mieux revenir ensuite. Donc, oui, il y a une forme d'isolement, mais presque parfois une forme d'isolement choisi avec le petit groupe de gens qui lui sont dévoués corps et âme et en qui il a entière confiance. Et c'est vrai qu'il a beaucoup de mal, il a eu toujours beaucoup de mal depuis son élection en 2017 à faire, à renouveler un peu les visages, à faire rentrer de nouvelles personnes au sein de son clan, de son dispositif. Donc en ce sens, moi je dirais isolement oui, mais isolement choisi.
Arthur, même question, il est isolé ou pas ?
Tout à l'heure, William évoquait l'ancienne plume d'Emmanuel Macron qui s'appelle Jonathan Guémas. Jonathan Guémas, lorsqu'il était en poste à l'Élysée, il conseillait souvent à Emmanuel Macron d'écouter Orelsan, le chanteur, le rappeur, dont il le voyait, Jonathan Guémas, parlait de lui comme d'une sorte de sociologue du 21e siècle, des temps modernes. Entendons-nous, hein, il n'en fait pas Bourdieu, mais pour autant, il voyait dans ses chansons des éléments de nature à pouvoir possiblement aider le président de la République à
l'odeur
à
de l'essence,
la société
notamment
de nos jours. Exactement, l'odeur de l'essence notamment. Eh bien, il y a une autre chanson d'Orelsan qui répond en tout cas assez bien à votre question. C'est « Seul avec du monde autour ». Eh bien, je crois que ça résume assez bien la situation d'Emmanuel Macron.
Alors, on va finir comme on avait commencé avec Brigitte Macron. La première dame l'avait dit sur RTL au micro d'Amandine Bégaud. Les Français lui font parfois passer des messages à elle pour le président.
Maintenant, je suis rentrée un petit peu dans leur paysage. Ils m'identifient, donc ils disent, bon, avec elle, on peut y aller, on peut lui parler. Donc, ils me parlent très franchement, de ce qui va, de ce qui ne va pas. Et dites à votre mari. Alors, dites à votre mari, ça veut dire ce qui va, mais ce qui ne va pas.
Et vous lui dites à votre mari ?
Toujours.
Toujours.
Si vous ne voulez pas que je le dise à mon mari, ne me le dites pas.
C'est elle, la conseillère numéro 1,
oui,
William.
Forcément, elle est centrale, c'est elle et ça a toujours été elle. On la revoit en train d'entraîner son mari à prendre la parole en public dans les coulisses de la campagne dès 2016, refaire les nœuds de cravate, mais ça va au-delà de l'esthétique et de la forme, ça va aussi sur le fond. Bien sûr qu'il y a des échanges, bien sûr qu'il y a que les deux partagent, qu'il y a des retours, même si elle se défend toujours de vouloir intervenir dans les choix politiques de son mari. Et puis, c'est effectivement, comme elle l'expliquait là, Brigitte Macron, elle est devenue un capteur très intéressant. Les gens lui parlent. Elle reçoit aussi énormément
de courriers.
Ce sont des centaines de lettres quotidiennes qui arrivent et qui sont destinées à l'Élysée, au cabinet de Brigitte Macron. Et ça fait partie aussi de ces... voilà, de ces petits capteurs, et quand elle repère effectivement des choses qui reviennent, elle n'hésite pas à lui dire « Tiens, attention, là, on me parle beaucoup de tel sujet ou tel sujet ». Donc oui, elle est centrale, Brigitte Macron.
Elle est centrale aussi, Arthur, d'après vous ?
Vous avez eu la gentillesse tout à l'heure, lorsqu'on m'avait présenté, de citer mon livre « Emmanuel Macron, vérités et légendes ». Pour ce livre, il se trouve que j'ai rencontré Emmanuel Macron et qu'il y a une tête de chapitre qui s'appelle justement « Brigitte Macron est-elle sa première conseillère ?» Et donc, je lui ai posé très directement cette question et sa réponse a été très claire. Il me dit « Elle n'est pas que la femme qui m'accompagne dans la vie, elle a un rôle et une influence sur moi ». Donc c'est lui qui répond à votre question en disant « Oui, Brigitte Macron, elle a un rôle auprès d'Emmanuel Macron, elle a une influence sur lui. Alors évidemment, ça n'est pas elle qui explique comment est-ce qu'on va flécher les milliards d'économies héritées de la réforme des retraites. En revanche, sur des questions culturelles, sur des questions sociétales, oui, elle a un regard. Brigitte Macron, et elle a un regard non seulement, mais en plus elle est écoutée par son mari. Et Brigitte Macron, chaque année, lorsqu'elle lance l'opération Pièce Jaune, elle fait une tournée médiatique. Mmh. Mais cette année, ça a été très différent. Elle a fait donc RTL, elle a fait également le journal télévisé de TF1, exactement, et elle a fait le face au lecteur du Parisien. Et bien, dans chacune de ces trois interventions médias, radio, télé, presse écrite, elle a pris des positions politiques, ce qu'elle n'avait jamais fait jusqu'ici. Souvenez-vous du Parisien, on est à la veille d'une niche défendue par le Rassemblement National, c'est dire sur
l'uniforme à l'école.
Exactement, le port de l'uniforme à l'école. Qu'est-ce qu'elle fait, Brigitte Macron? Elle se dit en faveur du port de l'uniforme à l'école, ce à quoi la majorité est à ce moment-là opposée. Lorsqu'elle est au journal télévisé, qu'est-ce qu'elle fait, Brigitte Macron? Elle répond à une question sur la réforme des retraites et sur l'état social du pays, ce qu'elle ne faisait pas jusqu'ici. Donc, non seulement elle a un rôle, une influence auprès d'Emmanuel Macron, pour le citer, mais surtout, ce rôle-là et cette influence-là, semble-t-il, sont grandissants. Puisque Brigitte Macron, à la différence de n'importe quel autre membre du dispositif, elle n'a jamais été, et elle ne sera a priori jamais recadrée publiquement. La seule fois où elle l'a été, ça a été lorsqu'il y avait eu une couverture de Paris Match, où Emmanuel Macron, en 2016, donc il n'était pas encore candidat déclaré, je crois, ou alors il l'était tout fraîchement, avait fait semblant de s'en prendre à son épouse en disant que c'était une erreur de sa part à elle. À l'époque, il avait évidemment fait semblant, et c'est la seule fois où le président s'est permis de recadrer son épouse. Il ne l'a plus jamais fait depuis, et m'est avis qu'il ne le fera plus jamais.
Pas touche à Brigitte.
Voilà, pour résumer ça comme ça. Merci à vous deux, c'était passionnant. Merci Arthur Bernard, je rappelle que vous êtes chef adjoint du service politique du Figaro et auteur du livre Emmanuel Macron, vérités et légendes. Merci aussi à William Galibert du service politique de RTL. Merci d'avoir participé à ce Focus, le podcast de la rédaction de RTL que vous pouvez commenter, que vous pouvez noter sur votre plateforme d'écoute habituelle. Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur rtl.fr.